Jacques chapitre 3, épître de Jacques chapitre 3, à partir du verset 16, et on continue au chapitre 4 jusqu'au verset 3. Jacques chapitre 3, verset 16, et on continue au chapitre 4, verset 3. Au nom de Jésus. Car là où se trouve la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et bienveillante. Elle est pleine de bonté et produit des œuvres bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce qui crée la paix autour d'eux sèment dans la paix, et le fruit qu'ils récoltent, c'est une vie juste. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos passions, qui combattent sans cesse dans vos corps. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir et alors vous avez des querelles et des luttes. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Amen. Lorsque nous sommes confrontés à un découpage textuel pareil, il faut faire très attention dans la compréhension de la péricope. Il faut tenir compte de ce qui a été dit précédemment et la délimitation textuelle choisie par le lectionnaire fait un pont à ce qui a été dit sur la langue. On est dans l'épître de Jacques qui parle de la langue. Dans le chapitre 3, pour comprendre ce qui est dit ensuite dans le chapitre 4. Jacques relate la réalité de la vie d'une communauté chrétienne ou d'une paroisse. Dans une paroisse, dans une communauté, dans une église, il y aura toujours jusqu'à la fin des temps, hélas, le choc des idées. Et ce que Jacques nous met en garde, c'est suite à ces chocs des idées qu'on ne tombe pas dans les conflits d'ordre spirituel. C'est plus compliqué quand on résout un problème spirituel. C'est plus subtil. Et je pense que c'est la plus difficile à vivre dans un ministère. Les autres problèmes, nous le savons déjà comment les détecter, les éviter, puisque ce sont des choses évidentes. Tandis qu'ici, c'est un problème délicat car Jacques était précis, on touche au zèle et à la passion des uns et des autres. Dans sa façon d'opérer, c'est dans la motivation, c'est dans la passion que le problème se trouve, se situe. Ce n'est pas le problème à l'extérieur que nous voyons, c'est ce qui est caché dans nos motivations. En d'autres termes, Jacques nous invite à gérer les sauts d'humeur des uns et des autres. Parce que le principal souci, pour lui, c'est le fanatisme des idées. Par conséquent, Jacques nous exhorte à demander la sagesse que nous ne possédons pas, il l'avoue. Alors il l'a même dit dans le texte que cette sagesse, elle vient d'en haut. Cette sagesse n'existe pas sur terre. Le grand problème, c'est que les personnes qui tombent dans ce qu'on appelle le fanatisme des idées, ces gens-là croient qu'ils ont la vérité absolue et que c'est la vérité de Dieu. Et ce qui est grave, c'est que cette personne-là ou ces personnes-là vont penser que sa pensée est la pensée de Dieu. Et alors, il a le droit de maltraiter tout le monde parce qu'il a, il possède la vérité. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Il a pris comme un sacerdoce le fait de tuer les chrétiens parce que il a été animé d'une passion, d'un zèle pour son Dieu. Pour lui, à l'époque, les chrétiens étaient tous dans l'erreur. Et il se sentait comme un agent de Dieu pour exécuter toutes ces personnes qui sont dans l'erreur. Et dans tout cela, celui qui croit détenir la vérité pense, comme Paul, qu'il a même le droit d'utiliser la méchanceté pour défendre la vérité, qui croit que cela vient de Dieu. Ici, alors, l'éthique de Jacques va très loin. Pour lui, ce n'est pas la nature de la conviction ni la position que nous tenons qu'il observe, mais notre façon de partager nos convictions vis-à-vis de l'autre. Il attaque dans notre façon de partager nos convictions. Il ne juge pas nos convictions, mais il juge comment tu transmets tes convictions aux autres. Est-ce que l'évangile ou la bonne nouvelle que nous partageons à nos prochains nous permet d'écraser et de juger la personne? Parce que la personne est dans l'erreur, puisque la personne est dans le péché, alors je peux l'écraser. Et moi, je suis dans la vérité. Jacques dit non. Ce n'est pas ça, évangéliser. Ce n'est pas ça, partager la parole de Dieu. Et le conseil que Jacques nous donne ici, en matière de vie communautaire, il se préoccupe dans notre manière, dans notre approche. Sommes-nous, c'est lui qui le dit, sommes-nous conciliants? Sommes-nous raisonnables, pleins de compassion? Est-ce que nous semons dans la paix comme étant un artisan de paix? J'attire votre attention sur la façon dont Jésus a répondu à un scribe. Rappelez-vous, ce scribe était venu vers lui pour débattre, ou plus exactement pour tester et piéger Jésus sur son niveau de connaissance, parce qu'ils ne l'ont jamais vu dans une école rabbinique, et il se dit qu'il est rabbin. Alors ils se sont dit, allez, on va tester sa compétence théologique sur la loi. Alors, il y a un scribe qui est venu pour lui poser la question, quel est le premier des commandements? Alors Jésus a pu donner la réponse juste, et ils étaient même étonnés. Mais quand Jésus a su donner la réponse, regardez bien, Jésus lui a fait le retour de la manivelle en disant, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. J'aime bien cette phrase. Et juste après, il est écrit, et personne n'osait plus l'interroger. D'une façon sage, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas encore dedans. Au lieu de dire, toi, tu es encore out. Tu n'es pas loin, tu es déjà tout prêt, mais tu n'es pas encore dedans. Mais la personne qui était devant Jésus avait tout compris, avec amour, avec sagesse, avec tact, mais aussi avec vérité, une position qu'il tient vraiment. Alors, pour Jacques, connaître et détenir la vérité est important, certes, mais savoir la manière de transmettre et de partager cette vérité en est une autre. Souvent, nous sommes focalisés dans la quête de la vérité. C'est quoi la vérité? Mais on oublie comment je vais transmettre cette vérité. Et cette dernière est la plus délicate et aussi importante dans la vie d'une église. Nous avons toujours l'habitude d'entendre que le plus important, c'est le fond et non la forme. C'est vrai. Dans un premier temps, c'est vrai. Mais cela n'est pas toujours le cas. Il y a aussi une expression chez nous, dans mon pays, que je vais essayer de traduire littéralement. Je ne mangerai pas du miel dans les mains d'un lépreux. Vous voyez le miel qui coule, qui est appétissant, mais en même temps, la main du lépreux. Comment pourrais-je avoir un appétit de ce miel puisqu'il est entre les mains d'un lépreux? Oui, le miel est si bon, appétissant, avec toutes les vertus qu'on peut dire, scientifiquement parlant. Mais qu'on le veuille ou non, en voyant la main qui la porte, nous n'oserons jamais en manger, même en goûter. Il y a un obstacle. Et avec ce texte de Jacques, nous pouvons voir le concept ou l'importance de l'éthique chrétienne. L'éthique, pour Jacques, ne doit pas être une condition pour notre salut. L'éthique n'est pas une condition pour le salut. Puisque nous sommes sauvés uniquement par la foi et non par les œuvres, ça c'est clair. Mais l'éthique sert de support, d'outil de transmission de la parole que nous partageons à notre entourage. C'est tout. L'éthique est un moyen de communication. Jacques nous lance alors une réflexion dans notre façon d'apporter l'évangile vers les personnes qui ne sont pas du tout acquises à la cause chrétienne. Les gens d'aujourd'hui ne sont pas prompts à écouter la parole de Dieu parce que peut-être ce n'est pas moderne, ça ne suit pas l'air du temps. Donc la difficulté, elle est déjà là. Mais en plus, si notre façon, notre manière de transmettre cet évangile se fait dans la violence, sans compassion, alors tout de suite, avant même qu'ils entendent le contenu de ton message si beau, ils se bloquent rien qu'au premier contact. Cependant, soyons aussi lucides. Cela ne veut pas dire que même si nous avons une facilité dans la transmission de la parole, cela ne garantit pas que la personne va le recevoir. Ça aussi, c'est une réalité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous faisons tout notre possible pour que nous ne soyons pas un blocage à la parole de Dieu. Pour Jacques, il est vrai que nous ne sommes que des canaux de l'Évangile, mais tout au moins un bon canal où la parole de Dieu y coule très bien. Après, laissons la parole de Dieu agir, laissons la parole de Dieu faire son œuvre sur les personnes que Dieu nous met sur notre chemin. Ce n'est pas à nous de les convaincre. Ce n'est pas notre tâche de convaincre. Notre part, c'est de partager. Et la parole elle-même qui fait le boulot. Notre but, ce n'est pas d'avoir raison dans les discussions ou de remporter la victoire dans les échanges. Il se peut qu'on est habile. Mais évitons, dit la parole ici, de tomber dans les conflits inutiles qui ne servent à rien, qui ne servent même pas à la cause de l'Évangile. Parce que parfois, c'est nous qui recevons la gloire et non Dieu. Écoutons ce que dit Paul, qui, je crois, résume bien tout ce que nous venons d'entendre dans Colossiens chapitre 4, versets 3 à 6. « Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Et je souligne cette partie, « une porte pour la parole. » Et que se dise le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison, que j'en parle clairement. Et comme je dois en parler, comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. À chaque fois que nous allons ouvrir notre bouche pour partager le Seigneur, ayez une parole de grâce. Ayez une parole assaisonnée de sel, non pas une parole qui fait fuir les gens. Voilà le message aujourd'hui. Soyez les ambassadeurs du Christ avec des paroles bien assaisonnées. Amen.